Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez encore appris des choses sur vous ou sur les autres. Car chaque jour est une découverte pour peu qu'on veuille bien se remettre en question. Pour peu qu'on veuille bien accepter aussi que chacun a sa vérité, car on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles qu'on est. Et quand on comprend ça, alors on fait un grand pas vers la tolérance. Comprendre et accepter que chacun a sa carte du monde, chacun a sa façon de voir et de comprendre ou pas, en fonction de ce qu'il a vécu. Ce vécu, ces expériences de vie, c'est précisément ce que nous partageons chaque soir sur cette libre antenne. Alors ce soir encore, venez me parler de vous, de votre vie, appelez-moi au 3921 et retrouvons-nous sur l'antenne pour partager jusqu'à 1h du matin toutes nos confidences. 3921 donc pour nous joindre directement par téléphone, sinon je vous rappelle que pour participer à nos échanges par SMS, vous faites le 739-21 suivi du mot nuit de votre message. Cindy et Nicolas sont au standard, Guillaume à la réalisation, ça veut dire qu'on est prêt à vous accueillir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Claudine. Bonsoir à vous, Claudine.
Ah oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue. Allô ?
Oui, allô ?
Oui, je vous écoute.
Oui, alors je vous appelle parce que je connais votre émission, je connais votre écoute donc, et votre bienveillance. Mm-hmm. En fait, je me trouve dans une période un petit peu difficile.
Oui.
Pour plusieurs raisons, une raison professionnelle, une raison plus liée à la vie sociale, et puis aussi une raison familiale.
Alors, racontez-moi dans l'ordre.
Dans l'ordre.
Celui qui vous vient à l'esprit.
Ah oui, bien sûr. Alors, c'est ce que je vis plutôt en ce moment, à savoir que je me retrouve dans la maison des parents, alors que je n'habitais pas là. Et il se trouve que je les ai accompagnés et ma mère est décédée il y a un an précisément. Et donc, je me trouve toujours dans cette maison.
Et pourquoi vous y restez ?
Alors, pourquoi j'y reste C'est un peu la question, justement. Il se trouve que je pense qu'en fait, le fait de me retrouver ici, alors vous me demandez pourquoi j'y reste, mais j'ai pas trop la réponse, justement.
Parce que j'ai l'impression que ça ne vous rend pas heureuse. En tout cas, la manière dont vous en parlez, ça n'a pas l'air d'être...
Oui, voilà. En fait, c'est un peu lourd, oui. C'est un peu lourd.
Ça se comprend.
Premièrement, parce que je pensais pas habiter là. Je ne voyais pas ma vie comme ça. Enfin, je ne voyais pas un jour habiter ici. C'est une maison où j'avais plaisir à revenir parce que c'était la maison des parents.
Et oui, voilà. C'est ça, c'est pas la même chose. C'est une autre histoire en réalité.
Complètement.
C'est la leur avec vous à côté. Là, ça devient la vôtre.
Oui. Et tout à fait. Sachant que pour l'instant, pourquoi rien n'a été fait, c'est parce qu'il y avait aussi une question de biens immobiliers en indivision, et cette maison en fait partie.
Ah oui, donc c'est toujours un peu long, ça, oui.
Bon, tout ça, ça peut maintenant avancer beaucoup plus, mais je n'arrive pas, en plus, bon, je suis en recherche d'emploi, j'ai dû mettre entre parenthèses tout ça pendant pas mal de temps.
Combien de temps, à peu près, vous avez pris pour vous occuper d'eux ?
Eh bien, ça fait depuis 2-3 ans,
oui.
À peu près.
Mais donc, je comprends. C'est la fin de quelque chose et ça, c'est un peu un temps mort, quoi. C'est un temps de réflexion, d'introspection aussi, de se demander un peu qu'est-ce que je fais maintenant de tout ça.
Oui, c'est tout à fait ça. Et en même temps, je n'arrive pas. C'est là que je ne comprends pas. Alors que je suis quelqu'un habituellement d'assez... je suis dans la vie, J'avais pas mal d'activités, bon, l'activité professionnelle, l'activité extra-professionnelle. Bon, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Cependant, bon, j'avais une vie assez remplie. Mmh. Et en fait, je me suis complètement mise en retrait. Voilà.
Est-ce que vous avez des frères et sœurs, Claudine ?
Voilà, j'ai un frère, hein. Effectivement, et c'est pour ça que je parlais d'indivision, entre autres.
Parce que je me demande, qu'est-ce qui a fait que c'est vous qui avez choisi, ou peut-être pas choisi d'ailleurs, de vous, j'allais dire vous sacrifier, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de vous mettre entre parenthèses pour vous occuper des parents. Pourquoi ça n'aurait pas été
alors, il était aussi présent quand même, parce que à un moment donné, parce que je n'habitais pas du tout à côté, c'est mon père qui a commencé à être très malade et mon frère s'est beaucoup impliqué. Mais il s'est toujours beaucoup impliqué aussi. Hein.
Ah bon, d'accord. Il y a un équilibre quand même.
Oui, oui. Bon.
Mais c'est vous qui êtes venu vous installer dans cette maison et qui êtes un peu coincé maintenant, si je comprends bien.
Ben, disons que je ne me vois pas. Cette maison nécessiterait aussi des travaux importants. Alors, il est vrai que certaines personnes pourraient peut-être se dire je vais maintenant l'investir, avoir un projet lié aussi à cette maison, mais je n'arrive pas à ça. Voilà.
Ça, c'est très intime, il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça peut être un projet ou pas. Si vous ne le sentez pas, il n'y a aucune raison d'y aller sur ce chemin-là.
Tout à fait.
Je comprends que les autres, comme vous dites, peuvent penser ça, mais les autres, ce n'est pas vous et ils ne vivent pas...
Non, mais oui, tout à fait. Enfin, je veux dire par là que c'est une chose qui
oui, on peut l'envisager.
C'est une piste. C'est pour être une piste.
Oui, mais voilà. Si vous ne le sentez pas, on peut pas, c'est pas possible, ça. C'est trop important émotionnellement, comme investissement aussi, hein, la maison de ses parents.
Je pense, parce que c'est pas... D'abord, il n'y a pas forcément que des bons souvenirs, il n'y a pas...
Alors nous y voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Comment ils étaient ces parents-là avec vous, enfants ?
Comment ils étaient quand j'étais enfant ? Comment ils étaient ? C'est une bonne question parce que je ne réponds pas tout de suite, là, mais ce que je vis là en ce moment, c'est je suis tout le temps dans le passé. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai vécu dans cette maison ?
Que vous me dites qu'il n'y a pas que des bons souvenirs, ça sous-entend qu'il y en a des mauvais. Donc vous faites allusion,
oui,
vous faites allusion à quoi, par exemple ?
Alors, je fais allusion à quoi ? À l'époque, oui, à l'époque où il n'y avait pas de confort dans la maison, par exemple.
D'accord.
Mais alors que c'est une maison qui ensuite a été petit à petit aménagée, hein, et qui encore pourrait l'être.
Mais là, vous me parlez de choses matérielles. Est-ce qu'il y avait de l'amour dans cette maison ? Est-ce qu'il y avait des rires, de la complicité, une famille unie ? Ou pas tellement, finalement ?
Non, pas tellement, en fait.
D'accord.
Pas tellement. J'ai quand même... J'ai en tête des bons souvenirs.
Mais pas suffisamment de ce que j'entends pour que cette maison soit une sorte de maison du bonheur, quoi. C'est pas ça.
Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Par contre, ce qui peut paraître surprenant, c'est que quand je revenais, j'avais toujours plaisir à revenir. Quand je venais leur rendre visite.
Oui, mais vous l'avez compris, c'est autre chose de rendre visite à ses parents que d'investir un lieu. C'est pas la même chose.
Non. Non, parce que je disais toujours, je vais à la maison des parents, voilà, je disais toujours ça.
Vous ne disiez pas, je retourne chez moi ou dans ma maison.
Oui, c'était
chez eux.
Oui, c'était chez moi dans la mesure où, enfin, c'était avant, c'est pas le lieu que j'avais choisi, parce que pour être, quand je dis je vais chez moi, c'est le lieu que j'ai choisi pour faire ma vie d'adulte, voilà.
Et quand vous avez décidé de tout quitter pour aller chez eux, vous étiez très loin géographiquement ?
J'étais très loin. J'étais en France, mais j'étais à ou à 450 kilomètres.
Ouais, enfin, c'est pas à côté. C'est un pan de vie que vous avez lâché aussi, j'imagine, des activités, des connaissances, des copines.
Oui, alors que j'ai des copines sur le secteur où je suis aussi, que j'ai gardé, que j'ai toujours gardé. Et par contre, je me suis vraiment... je me suis coupée de beaucoup de choses, oui.
Bah, j'imagine, quel âge avaient vos parents quand ils sont décédés?
Alors, mes parents, pour ma mère, ça fait un an, donc 86, et mon père, ça fait 5 ans, 4 ans, oui. Il avait 88, oui, c'est ça.
Ils étaient malades?
Oui, alors, mon père avait des soucis cardiaques, mais bon, ça s'était géré. Il avait eu de la polyarthrite, enfin une maladie, oui, qui s'est aggravée. Et quant à ma mère, et c'est là que je culpabilise en fait, parce que elle avait des soucis cardiaques, hein, qui se sont aggravés. Il y a eu des complications malgré tout le traitement qui a pu être mis en place. Et ça s'est dégradé, et je considère, et je suis sûre même que je n'ai pas, j'ai pas su le gérer, en fait, tout ça, correctement.
Mais qu'est-ce que vous vous reprochez précisément?
Enfin, qu'est-ce que je me reproche? Je me rends compte que j'ai pas... Il a été difficile et j'ai pas réussi à mettre en place ce qu'il fallait pour l'entourer, en fait.
Vous savez, c'est un peu facile, quelquefois, après coup, quand on sait comment les choses se sont passées, de dire « j'aurais dû ». À ce moment-là, vous ne saviez pas ce qu'il aurait fallu faire. Vous n'avez pas délibérément fait mal les choses. Vous ne saviez pas comment faire. Vous êtes dur avec vous-même, là, je trouve. Hein.
Oui, mais en même temps... Bon, il y a eu des hospitalisations, des retours, et il n'a pas été possible, enfin, là où ça s'est passé, où je me trouve, de mettre en place vraiment, et en même temps le refuser. Alors c'était ça qui était un peu difficile.
Vous voyez que c'est pas si simple.
Non, c'est très difficile. Et en plus, moi personnellement. Je n'aurais pas pu travailler dans un milieu hospitalier ou dans une maison de retraite, parce que on va faire la mort, en fait, quand on est en maison de retraite. Accompagner des gens âgés, ça n'aurait pas été un métier pour moi.
Mmh. C'est vrai qu'il faut, c'est particulier, il faut la vocation.
Et donc là, me retrouver dans cette situation, en plus, c'est pas une personne étrangère. Donc, c'est encore plus difficile. Hein. J'ai trouvé que c'était...
Il y a un investissement émotionnel quand c'est quelqu'un de proche, en plus, évidemment. C'est pas juste gérer le quotidien, le matériel, c'est gérer les émotions qui vont avec. Parce que même si vos parents étaient âgés et malades et que donc vous saviez qu'on allait vers la fin, ça reste quand même un deuil à faire. Hein. Et je pense que là, vous êtes un peu perdu parce que vous êtes dans la... C'est très frais encore un an. C'est le tout début.
Oui, mais en même temps... oui, c'est frais, mais en même temps... Et en même temps, je pense que je n'étais pas non plus, moi, dans un état très... où j'étais en forme, voilà.
Mais oui, forcément.
Pour en plus. Donc... donc... En fait, comment dire, en temps habituel, enfin en temps normal, je ne sais pas comment dire, dans mon état habituel, je suis quelqu'un qui quand même anticipe, prend des décisions, partage pas mal de choses avec les personnes que j'apprécie.
Oui, comme vous disiez, vous êtes dans la vie, dans l'action.
Voilà, alors que je me trouve complètement... je me sens éteinte. Hein. Je me sens éteinte. J'ai voulu reprendre quelques activités, mais je suis absente. Je suis pas dans le présent.
Mais ça me paraît complètement logique, Claudine, vraiment. Vous avez donné beaucoup pendant près de 5 ans. Là, c'est pas encore fini. Il y a encore l'histoire de la succession avec la maison. Il y a encore beaucoup de choses sur le plan matériel. Et quand on a beaucoup donné comme ça et que ça s'arrête, il y a forcément un temps un sas. Vous êtes dans le sas en ce moment. On ne peut pas, en un claquement de doigts, revenir à une vie, j'allais dire normale, ce n'est pas tout à fait normal, mais une vie plus adaptée à votre âge aujourd'hui, si vous voulez. Vous avez vécu leur rythme à eux pendant 5 ans.
Oui, parce que ce que je me dis, c'est que le temps passe pour moi et j'ai l'impression de ne pas... Oui, je n'ai pas vécu, quoi. Je ne sais pas comment dire, ouais.
Vous avez mis appuyé sur le bouton pause pendant plusieurs années quand même. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de temps avant de repartir. Qu'est-ce que vous aimeriez construire dans votre vie professionnellement,
sentimentalement ? Justement, je n'arrive pas à me projeter.
Vous n'avez pas d'envie ?
Voilà, c'est ce qui se passe. Je n'ai pas d'envie. Donc là, j'ai fait quelques sorties, j'ai retrouvé quelques personnes. Et ceux qui me connaissent me disent, mais... Bon, j'ai fait quand même des sorties, même l'an dernier, etc. Enfin, bon, je n'ai pas toujours resté clouée ici. Hein. Et ceux qui me connaissent, les amis, parce que j'ai des amis, me disent, mais on ne te retrouve pas. On ne te retrouve pas. Voilà. Et moi, je ne me retrouve pas.
C'est ça, vous ne vous êtes pas retrouvé vous-même encore pour l'instant. Vous êtes dévouée pour vos parents.
Alors, ils me le disent d'une façon très, très gentille. Ouais. Ce n'est pas du tout pour... Donc, on m'a proposé des sorties, on m'a proposé... Mais je suis absente.
Il y a un petit fond de déprime, là, dans ce que j'entends, quand même.
Mais oui.
Vous en avez parlé à votre généraliste, c'est ça ?
Oui. Mais bon, j'avais pris un traitement, mais bon, ça ne m'a pas tellement aidé. Alors, parce que ce qui m'était conseillé, c'était plus essayer de sortir, de voir du monde. C'était plus ça, en fait.
Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que quand on n'a pas envie, et comme vous dites, quand on n'arrive pas à raccrocher les wagons, on a besoin d'aide quand même. Qu'est-ce que vous avez pris comme traitement ? Antidépresseur ou anxiolytique ? Ou les deux ?
Antidépresseur, je l'ai pas sous les yeux, là.
Non, mais pour savoir, pas le nom, ça m'est égal, mais simplement la fonction.
Oui.
Antidépresseur, vous pensez ?
Oui.
Et combien de temps vous l'avez pris ?
Sur un mois à peu près.
Oui, donc ça ne sert à rien du tout, parce qu'il faut 3 semaines pour que ça commence à agir. Donc ça, ce n'est pas une bonne idée d'avoir arrêté si rapidement. Il est logique, vous avez le droit de...
Non, j'ai dit un mois, c'est plus que ça, ça doit être... Non.
Oui, enfin, pas très longtemps quand même de ce que j'entends. Ça n'a pas eu le temps d'agir, vous me dites que ça n'a pas agi, mais ça n'a pas eu le temps d'agir.
Non, ça a été plus que ça. Non. Je ne me rappelle plus. Ça remonte à un petit moment déjà, ouais.
C'était quand ?
C'était il y a 3 ans.
Ah oui, donc ça veut dire que depuis que votre maman est décédée, vous n'avez rien pris ?
Non.
Et vu personne non plus ?
J'en ai reparlé et... C'est là qu'on m'a dit, ce qui est important, c'est effectivement de...
Attendez, j'en ai reparlé, ça veut dire quoi ? Vous en avez reparlé à qui ?
Au médecin, au généraliste.
Oui. Au généraliste, oui, mais pas à un psy.
Non.
Parce que c'est un peu facile aussi de dire, il n'y a qu'un faucon, il faut ressortir, il faut voir des amis. Oui, mais vous n'y arrivez pas, le problème, il est là. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, entre guillemets, comme s'il y avait une recette magique. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est là que vous avez besoin d'aide. C'est pas en vous disant il faut que tu vois tes amis que ça va marcher. Si vous n'êtes pas dans l'action, dans l'envie.
Oui, parce que je suis je subis en fait. Oui, c'est un peu ça. Quoi.
Vous êtes un peu comme sonné, j'ai l'impression, par tout ce qui s'est passé là, pendant 5 ans.
Ça fait pas 5 ans. 4 ans, oui.
4 ans. Ouais.
Je sais pas comment. Ouais.
Bon, au niveau du travail, est-ce que vous envisagez de reprendre le travail ou vous envisagez plutôt une pré-retraite ?
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, j'avais marqué la raison précise, donc j'ai eu des entretiens. Bon, ensuite, je ne pouvais pas forcément envisager une mobilité professionnelle, enfin une mobilité géographique, je veux dire, pour l'instant. Et mais j'avais effectivement eu des entretiens. Mais je me rendais compte que ça ne marchait pas. Mais ça vient de moi, hein. Parce que bon, ça peut ne pas marcher, mais en temps habituel, j'aurais rebondi, voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais.
Là aussi, ça date de quand, ces entretiens ?
C'est récent, j'en ai eu, en fait, en même temps, pendant cette période-là. Et puis, depuis la période dont depuis 4 ans, donc. J'en ai eu un autre il n'y a pas très très longtemps. Et j'en ai un cette semaine-là. La semaine prochaine, par exemple.
Ouais.
Vous voyez, ça ne me fait même pas réagir. Enfin, je devrais me dire... Parce qu'en plus, au niveau financier, il me faut absolument travailler, à un moment donné.
Mmh. Mmh.
Même si il y aura certainement, matériellement, des choses qui, à un moment donné, si je quitte la maison, je ne sais pas...
Vous avez hérité, oui, un petit peu.
Enfin, qui se vendront, voilà.
Oui, mais ça ne sera pas tout de suite non plus. Hein.
Donc, j'ai la sensation de ne plus avoir les compétences. Voilà, en fait, j'ai perdu confiance en moi. C'est ça que je voulais commencer par ça, en fait. J'ai perdu confiance en moi, c'est ça. Et ça, c'est le problème aussi quand on ne travaille pas. C'est la perte d'estime de soi, voilà. Ça va jusque-là.
Il y a ça, et puis il y a surtout ce pas envie là que j'entends. Parce que la flamme qui fait démarrer tout, c'est l'envie d'avancer. Même quand on manque de confiance, même quand on manque d'estime, on avance parce qu'on a envie d'y aller. Et cette flamme-là, elle s'est pas rallumée encore chez vous.
Non. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire que je me sentais bien ancrée, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire ?
À quel moment vous vous sentiez ancrée ?
Ben, jusque-là, en fait, je me sentais ancrée, c'est-à-dire ancrée dans la terre. Pour moi, ça veut dire être dans la vie, quoi, en fait. Voilà. J'avais les pieds sur terre, mais en même temps, j'avais tout le temps des projets ou des tout petits projets, mais j'avais toujours quelque chose, ouais.
Au-delà de ce manque d'envie, comment est-ce que vous vivez ce deuil de votre maman, surtout, parce que c'est plus récent ?
Mais c'est assez étrange, parce que je crois que je ne suis pas dans un état... dans mon état habituel, parce que... Comment dire ? D'ordinaire, par exemple, enfin, moi, il me semble, j'aurais pu écrire quelque chose pour la cérémonie, j'aurais pu... Et là, j'étais complètement...
Est-ce que
c'est comme si je ne l'avais pas vraiment vécu, je ne sais pas comment dire.
Dissocier, est-ce que le mot dissocier vous parle ?
Dissocier, c'est-à-dire...
Mais vous n'êtes pas vraiment là, en fait, vous êtes un peu spectatrice de tout ça.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça, oui.
Et quand on fait ça, c'est une manière inconsciente de se couper de ses émotions, de ne pas les vivre parce qu'elles sont trop dures à vivre.
Mmh. Oui.
Le problème, c'est que ce n'est pas une solution, parce que vous voyez bien ce qui se passe après. Quand on ignore ses émotions, on reste un peu coincé comme vous l'êtes en ce moment. Et moi, je pense vraiment que ça
serait... c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est ce que C'est-à-dire que... Je suis quelqu'un qui suis dans le mental. Là, je suis dans le mental, voilà. Mmh. Je suis pas dans les émotions. C'est-à-dire que je rumine. Je suis dans les ruminations. Ça, c'est pas bon du tout, oui.
Et comment se fait-il que vous n'ayez pas eu envie de voir un psy ? Parce que un mois ou deux d'antidépresseurs que vous arrêtez et puis pas de thérapie derrière, c'est compliqué de trouver de l'aide dans ces cas-là, d'arriver à avancer. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vous ferait du bien de voir quelqu'un, d'aller poser un peu tout ça, justement de lâcher les émotions pour une fois ?
Ben alors justement, c'est ce qui me surprend. Ouais. Oui, j'étais vraiment dans les émotions et c'est ce qui fait vivre. Enfin, pour moi, je. Oui. J'étais dans les émotions.
J'ai bien compris, mais vous les avez bloquées, ces émotions, depuis. Comme une forme de protection, mais la protection est devenue une véritable prison pour vous, maintenant.
Oui, c'est tout à fait ça. Je suis prisonnière à l'intérieur de moi-même.
C'est pour ça que je vous dis que ça serait bien que quelqu'un vous tende la main, et ce quelqu'un, ça ne peut être qu'un professionnel. Pas forcément longtemps, mais vous avez besoin d'être accompagnée, là. Pour retrouver l'élan, justement, retrouver cette petite flamme qui vous donnera l'envie d'avancer.
Oui, l'élan vital.
Exactement.
Oui. En plus, ce qui est terrible, c'est que, bon, par rapport à mon vécu, plus ou moins facile, en fait, il y a des choses qui m'ont gênée et dont je me suis débarrassée. Voilà. Donc, j'en ai pris conscience et j'avais vraiment...
C'est déjà bien, ça, c'est une bonne chose de fait.
Ah oui, mais ça, je l'ai fait par le passé parce que... J'avais besoin de... J'en ai éprouvé le besoin, donc ça m'a permis de modifier ma relation aux autres, etc. Enfin bref, d'être dans une démarche beaucoup plus d'ouverture.
De libération, je dirais, oui, c'est ça.
Oui, et puis j'ai eu une autre façon de vivre ensuite. Et donc ensuite, ce que je dis à certains amis qui le savent, c'est qu'en plus, ça m'a après permis de m'intéresser beaucoup à tout ce qui est développement personnel, etc. Mmh. Et donc, je me suis nourrie de beaucoup de lectures, etc. Et ça m'a vraiment permis de mettre des mots sur certaines choses, en fait.
Ça vous a aidé?
Oui, et en même temps, j'étais devenue quelqu'un de très... je me trouve, enfin voilà, empathique, à l'écoute, voilà, et je ne le suis plus, c'est ça, ouais.
C'est ce que je vous disais, vous avez appuyé sur le bouton pause et vous n'arrivez plus à retrouver le bouton on pour l'instant. Mmh. Et je pense que cette pause est bénéfique parce qu'il y a un temps pour tout. Vous avez passé du temps à vous occuper de vos parents. Il y a un temps de deuil, il y a un temps d'adaptation au changement, mais que là, effectivement, au bout d'un an, il faut reprendre un peu le mouvement. Et si vous n'y arrivez pas, c'est là qu'il faut vraiment vous faire aider. Mmh. Parce qu'effectivement, un an, c'est un délai qui est raisonnable pour effectivement gérer tout ce qu'il y a à gérer, accuser le coup, retrouver, vous retrouver, mais vous ne vous retrouvez pas pour l'instant. Vous vous retrouvez en mode off. Il n'y a plus le mouvement, il n'y a plus l'envie. Parce qu'on sent que derrière, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en marche chez vous. Il y a des, forcément, comme vous dites, on sent que vous avez travaillé sur vous, vous avez compris des choses que...
Oui, mais c'est... Oui, en plus, oui, j'ai...
C'est juste que pour l'instant, vous êtes éteinte.
Oui, mais ça fait un petit moment, oui.
Ben oui, mais attendez, c'est pas facile ce que vous avez vécu non plus. Hein. J'imagine aussi que c'est un gouffre à énergie de s'occuper de gens qui sont âgés et malades. Mm-hmm. Vous avez donné de vous-même beaucoup, ben oui, forcément.
Oui, en plus, ça s'est passé pas forcément très très bien.
Ah. Ce que je vous propose, c'est que vous allez me raconter ça, mais juste après les infos, si vous le voulez bien.
D'accord.
Vous êtes d'accord pour patienter un petit peu?
Oui, d'accord.
On va reprendre notre conversation dans quelques instants, Pauline, si vous voulez. Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 3921 si vous avez envie de parler ce soir, de prendre la parole, de venir me raconter votre vie, vos soucis. 3921, Cindy et Nicolas sont là au standard, ils attendent vos appels. Et pour réagir par SMS, c'est toujours le 739-21, le mot nuit et votre message.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et je vous retrouve, Claudine, vous êtes là?
Oui.
Oui. Donc si je résume un peu ce que vous me racontez, vous étiez une femme qui avait fait déjà un beau chemin, qui avait compris beaucoup de choses de votre vie, vous êtes beaucoup intéressée au développement personnel, vous étiez ancrée, comme vous me disiez, dans la vie, Et puis, vous êtes mis un peu en retrait de cette vie pour aller vous occuper de vos parents malades, qui sont maintenant décédés. Et depuis, là, depuis un an, depuis la mort de votre maman, surtout, vous vous sentez un petit peu sur le banc de touche, quoi, si je puis dire, un peu perdu.
Oui, oui, tout à fait.
Sachant pas très bien par quoi commencer, si j'ai bien compris.
C'est un peu ça, oui. Mmh.
En même temps, il y a des choses qui vont se faire d'elles-mêmes. C'est-à-dire que la succession de la maison, qu'est-ce que vous avez choisi avec votre frère? Qu'est-ce que vous avez décidé?
En fait, il n'y a pas que la maison, il y a autre chose aussi. Donc,
la succession globale, comment est-ce que vous avez géré ça? Vous allez gérer ça?
Eh bien, ça va être réparti, donc ça va se passer normalement, je dirais, sans...
Non, mais ça veut dire que vous allez vendre la maison?
Justement, je ne sais pas.
Et lui, qu'est-ce qu'il en pense?
Lui, il ne souhaite pas y habiter, donc déjà, c'est réglé.
Non, ce n'est pas réglé, parce que j'imagine qu'une partie lui appartient.
Oui, ça, d'accord, bien sûr, bien sûr.
Non, enfin, je veux dire, c'est pas si simple. Financièrement, c'est pas forcément simple, ces histoires-là.
Je pense que ça va quand même pouvoir se faire de façon correcte, voilà.
Mais quoi? Qu'est-ce qui va se faire? Si vous n'y vivez pas ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que vous en faites de cette maison?
Elle va obligatoirement être vendue.
Il y a une décision à prendre, il y a des actions à mettre en place maintenant.
Oui. Ce qui a été fait, c'est l'évaluation. Donc déjà, ça a été fait déjà.
Bon, voilà. Je pense qu'une chose après l'autre, tranquillement, vous l'avez fait évaluer dans l'option de la vendre.
Oui, dans cette option-là. Et puis comme il n'y a pas que cette maison, c'était un petit peu de voir comment ça pouvait être réparti.
D'accord. Bon, la chose positive que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de guerre entre votre frère et vous. Il n'y a pas de conflit.
C'est pas très facile quand même, disons que je pense que. Il me semble qu'au moment du décès des parents, il y a des choses qui ressortent, en fait. Mmh. Dans la relation, dans la fratrie, quoi, forcément, aussi.
Ouais, c'est pour ça que je pense que vraiment, il faudrait voir un thérapeute, Claudine. Il y a trop de choses qui
ressortent. Je ne sais pas, mais... Bon, ça doit pouvoir se... matériellement, ça doit pouvoir... a priori, ça prend pas une mauvaise tournure, déjà. Donc,
Non, mais globalement, si je résume tout ce qu'on s'est dit, là, je crois vraiment qu'il faut que vous alliez voir quelqu'un. Vous avez besoin de mettre les choses à plat, de parler, de prendre du recul aussi, et de vous faire aider. Et peut-être même de reprendre un antidépresseur, l'histoire d'avoir juste un petit coup de boost pour voir la suite arriver.
Mmh. Hein ouais, d'accord.
Parce que là, vous marchez un peu à l'aveugle dans le brouillard. Et je pense que la clé de ça, c'est ce côté déprime qui vous éteint.
Ceci dit, c'est comment dire, il y a tellement de, enfin, comment dire. En fait, il me faut avoir un nouveau projet de vie. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Tout à fait. Mais pour l'avoir, il faut avoir envie de l'avoir. Et pour l'instant, vous êtes bloqué sur le « j'ai pas envie ».
C'était aussi de ne pas savoir par quoi commencer. Soit je commence par trouver un boulot et après je peux partir, soit c'est ça aussi.
Et pour partir, il faut que l'héritage et la succession soient réglés. Il vous faut de l'argent pour redémarrer, j'imagine, pour redémarrer quelque part.
Oui, oui, bien sûr. Bon, en même temps... Oui, on peut voir ça comme ça. Soit je commence par trouver un boulot, soit je vends la maison, j'achète autre chose. Voilà.
Mais une fois de plus, je pense que le vrai problème, le vrai souci, il n'est pas là pour l'instant. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer. Et je pense que si vous évitez d'affronter les émotions, vous n'allez pas réussir à avancer correctement. Peut-être c'est le moment, justement, cette période de latence, pour aller travailler sur vous un peu plus. Pour justement vous offrir un chouette nouveau départ derrière, vous voyez.
Oui. En même temps, bon. Enfin, je veux dire, j'ai pas non plus 30 ans, quoi, c'est ça. Donc. Mais je voyais pas les choses comme ça, quoi, en fait, voilà. C'est ça qui.
Mais je crois que vous les voyez pas du tout pour l'instant, les choses, c'est ça le problème. Vous tournez un peu en rond sur des. Vous n'arrivez pas à voir où aller, justement. Vous me dites, je sais pas par où commencer.
Oui.
Je me sens perdue, j'ai pas d'envie. C'est du brouillard, tout ça. Et pour sortir du brouillard, on a besoin d'aide. Mm-hmm. Personne ne va venir avec une solution magique en vous disant, il faut que tu fasses ça non, et ça, et ça va marcher. La solution, elle est en vous.
Non, bien sûr.
Mais il faut
sûr.
Que vous arriviez à trouver quelqu'un qui vous aide à la trouver, cette solution, justement. Je pense que vous le savez, si vous avez déjà travaillé sur vous, qu'à un moment donné, on a besoin aussi de se faire accompagner un petit peu. Quelquefois, le regard de quelqu'un d'autre qui n'est pas impliqué fait du bien.
C'est vrai. Bon, en même temps, comment dire ? Ce qui m'a pas aidé non plus, c'est de. Là, depuis quelques temps, je ne veux pas être assez occupée, en fait.
Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pendant plusieurs années, vous avez été très prise par vos parents et par tout ce qu'il y avait à gérer. Et maintenant, d'un seul coup, il y a un vide. C'est ça le sas dont je vous parlais tout à l'heure.
Oui.
Mais ce vide, il peut être rempli justement par une introspection. Un temps d'arrêt pour choisir où vous allez. Ce que vous voulez faire de votre vie. C'est maintenant que ça se décide. Mmh. Pour le décider, il faut avoir un peu d'énergie et vous n'en avez plus tellement pour l'instant.
Okay. Moi, ce qui me surprend, c'est que je suis. Je me trouve pas très agréable, en fait, voilà.
Pas très ?
Pas très, pas d'une compagnie agréable.
Mais non, parce que vous
êtes. Enfin, là, je suis pas dure avec moi, c'est vrai. Hein.
Et oui, parce que vous n'êtes pas bien avec vous-même pour l'instant. Donc, comment voulez-vous être bien avec les autres ? Ça me paraît complètement logique, tout ça.
Mais pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même.
Et pour s'aimer, il faut se faire aider en thérapie. On va en rester là, Claudine, parce que j'ai beaucoup d'appels ce soir derrière des gens qui attendent.
Bien sûr.
Mais je suis persuadée qu'il y a juste une flamme à rallumer. Quand vous l'aurez rallumée, vous allez construire une nouvelle période de votre vie qui sera chouette, qui vous ressemblera davantage. Ce nouvel élan qui vous attend là-devant.
Je vous remercie en tout cas.
Prenez soin de vous, Claudine.
Merci.
Au revoir.
Bonsoir.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et suite au témoignage de Claudine, on a Marie qui a souhaité de raconter aussi son expérience. Bonsoir Marie.
Bonsoir Sabine.
Ça vous a fait réagir alors l'histoire de Claudine ?
Oui, j'ai écouté l'histoire de cette dame. Excusez-moi, j'ai pas retenu
Claudine.
Son prénom.
Claudine.
Parce que je me suis trouvée dans sa situation. La seule différence, c'est que moi, j'ai été suivie au CMP depuis 2003, au centre médical psychiatrique.
Hein. Psychologique, ouais.
Donc, mon compagnon est décédé en 2008 du cancer d'un côlon. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai réalisé qu'avant, après... à la naissance de mon petit-fils. Je ne sais pas comment ça se fait. Pendant 15 ans, je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait. Mes jardins, j'ai un jardin devant, un jardin derrière, sont envahis par des herbes de la pampa, hein, alors que j'avais l'habitude de bien faire mon gazon. Je me suis retrouvée avec une maison sale, avec des toiles d'araignée partout. Je sais pas où j'étais, 15 ans ça a duré.
15 ans, oui, c'est vrai que c'est long. Hein. Claudine qui disait que ça faisait
un
an
déjà.
Oui, c'est long.
C'est long. Et quelquefois, j'étais assise, puis je me disais, tiens, je vais faire ça. Et puis non, je le faisais pas. Je sais pas, j'en étais incapable.
Pas envie, quoi, pareil, ouais.
Pas envie, pas pareil. Il y avait des objectifs, mais impossible de les atteindre. Mmh. Il faut dire qu'au décès de mon compagnon, je suis allée voir mon psy et je lui ai dit, écoutez, docteur, il faut me donner quelque chose de très fort, m'aider, parce que j'en ai besoin. Autrement, ça va être la jetée et la noyade. Mmh. Alors, il m'a dit, ben, je vais vous placer sous camisole chimique.
Oula, oui.
Oui, voilà. Parce qu'il me connaissait, hein, et tout. Et il savait que si je venais, que si je demandais de l'aide, c'est que vraiment, ça n'allait pas.
Oui, vous en aviez vraiment besoin, là, à ce moment-là.
Ah oui, oui, oui. Il fallait soutenir ma maman. Mes filles, excusez-moi, ma maman, je ne l'ai plus. Il fallait soutenir mes filles. Il fallait soutenir la famille de Jean-Yves. Il fallait soutenir la mamie, parce que la mère de Jean-Yves a perdu à la fois son mari le 14 avril et son fils le 25 décembre.
Oui, ça fait beaucoup. Et vous, au milieu de tout ça, fallait tenir debout.
Oui, moi j'ai tenu debout jusqu'à ce que tout le monde rentre chez lui. Mmh. Et puis après, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis incapable de vous dire pendant 15 ans ce que j'ai fait. Je suis pas sortie, ça je suis sûre. Je suis devenue agarophobe, qui m'avait dit mon psy. Je ne sortais que pour aller voir mon psy. Mmh. Je n'avais que ce réflexe-là.
Et comment vous êtes-vous sortie de ça, alors ?
Avec la naissance de mon petit-fils.
Le déclic, c'était ça ?
Cette année, le 15 février 2022, j'ai ressenti une grande joie. Et j'ai eu envie de faire des choses.
Ah, c'est formidable, ça. Il a ramené la vie, finalement, dans la
famille. Voilà,
dans la
c'est famille. Ça. Il m'a ramené à la vie. J'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai dit, oh mon Dieu, les jardins, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible.
Comme si vous avez réveillé un peu. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Comme si j'étais sortie d'un long tunnel. Parce que je suis incapable de dire ce que j'ai fait pendant 15 ans. Ou si, plutôt, j'ai rien fait. Et les journées ne me paraissaient pas longues, pas du tout.
Et pourtant, vous me dites que pendant ces 15 ans, vous avez été suivie par un psy.
Oui.
Et ça ne vous a pas permis quand même d'avoir le coup de talon nécessaire pour remonter, ça n'a pas suffi.
Non, non. Non, on avait prévu des objectifs.
Ah, allô ? Allô, allô ? Marie une fois, Marie deux fois ? Qu'est-ce qu'on fait, Guillaume ? Alors, bon, on va récupérer Marie le temps d'un disque, alors à tout de suite.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Marie, vous vous a récupéré ?
Oui, je suis désolée, Sabine,
je crois que c'est nous, je crois que notre standard est un coup de chaud, donc je suis désolée. On croise les doigts pour que ça tienne jusqu'à la fin de l'émission.
Oui, donc je dis, on parlait du psy.
Oui.
Le psy m'a aidée, hein, parce que quand j'y allais, il me disait ça va, je disais oui, c'est tout. Il m'a dit non, il s'inquiétait parce que j'ai fait des épisodes maladifs. J'ai été en diarrhée pendant 4 ans. On a fait des examens, il n'y avait pas de cause physique. Donc il m'a dit c'est psychologique. Et puis voilà quoi, mais il m'a aidée. Mais comme il le dit maintenant, là je l'ai vu le mois passé, je ne pouvais pas faire davantage pour vous. Vous aviez assez de médicaments. Mmh. Et puis il a dit, à partir de maintenant, cette camisole chimique, on va la baisser, on va la diminuer.
Petit à petit.
On va revenir à un traitement qui va vous aider, mais qui sera moins lourd. Voilà. C'est pour ça que je voulais dire à cette dame que j'ai quand même été bien aidée et que il y aura forcément une circonstance dans sa vie qui fera qu'elle se sentira mieux.
Un déclic, oui, c'est ça.
Un déclic, voilà.
Oui.
Moi, le déclic, ça a été la naissance de mon petit-fils.
Bah écoutez, on va lui souhaiter à Claudine un événement familial ou professionnel qui lui apporte ce bonheur-là, ce serait chouette.
Voilà. À part que moi, ça a duré longtemps. Mais bon, moi, je suis à la retraite maintenant, donc ça va, quoi. Ça a duré 15 ans. Mais maintenant, ça va. J'entreprends, je fais tout ça, quoi.
Et ce petit bonhomme, il s'appelle comment ?
Pardon ?
Ce petit bonhomme qui vient d'arriver, il s'appelle comment ?
William.
William, bah écoutez, on va lui souhaiter la bienvenue sur Terre à ce William.
Oui, il vient cet été, je vais le voir.
C'est chouette de vous entendre comme ça, heureuse, c'est formidable.
Ah oui, je suis heureuse. Je suis heureuse de la naissance de cet enfant, je suis enthousiasme. Je ne sais pas pourquoi ce déclic, je ne sais pas. Mais c'est comme ça, voilà.
Ben c'est formidable. Voilà. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Marie.
De rien, Sabine.
Je vous embrasse, bonne soirée.
Bon baiser à tous, au revoir.
À vous aussi, au revoir, Marie.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Bonsoir, Jess.
Bonsoir Sabine, vous m'entendez ?
Alors pour l'instant tout va bien, on a de gros soucis de standard à nouveau ce soir, donc si jamais ça coupe, on passe par les pigeons voyageurs, hein, si vous voulez bien.
D'accord.
J'aurais plus d'autres solutions là. Enfin, soyez bienvenue Jess.
Je vous remercie. J'allais vous dire, il faut faire attention avec le terme de pigeon parce que j'ai l'impression que dans mon cas...
Aïe. Zut, c'était pas le bon mot.
Oui, enfin c'est...
Alors racontez-moi.
Je vais essayer de vous raconter le plus clairement possible en un minimum de temps. En fait, je vous avais déjà appelé en février de l'an dernier, 2021.
Mm-hmm. Et votre voix me dit quelque chose.
Ah ben, la vôtre aussi, elle me dit quelque chose. Je l'écoute souvent. Je ne vais pas vous faire des compliments. Vous en recevez tellement. Ça serait indécent.
C'est gentil d'y penser, en tout cas.
Non, je vous en prie, c'est normal. Je suis sincère. Et justement, ma sincérité, c'est peut-être ça, ma difficulté. Donc, à l'époque, on sortait tous du deuxième confinement. Mm-hmm. Et j'avais noué une relation qui était carrément virtuelle par Internet et téléphone avec une jeune femme. Et ça m'avait complètement démoli. Et en même temps, je vous en avais parlé, vous m'aviez dit des choses, notamment quand vous m'aviez dit que des gens comme moi n'étaient trop souvent amoureux de l'amour, ça m'avait fait bien réfléchir. Et là, donc je m'en suis remis, hein, et pour cause, de temps il a passé, mais là, il m'est arrivé quelque chose de carrément imprévu. Je vais vous expliquer, quand je dis carrément imprévu, c'est-à-dire que je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas, je n'en fais ni motif de fierté, ni quoi que ce soit, mais je suis ce que l'on pourrait appeler, le mot est un peu à la mode, un neurotypique. C'est-à-dire que je suis décalé. Je peux être un client de psy, moi, voyez, vous avez beaucoup parlé de psy ce soir, parce que je ne suis pas adapté à la société. Et fatalement, d'ailleurs, je n'ai pas choisi. Fatalement, je suis devenu ce qu'on peut appeler artiste du spectacle vivant. Donc j'ai un côté border, hein, un peu borderline, c'est-à-dire avec un affectif qui part très très vite en vrille, avec un problème de gestion des émotions, et donc je me suis adapté, je suis un suradapté chronique à ce genre de choses. Et donc ce qui vient de m'arriver, dont je vais vous faire état, c'est quelque chose que j'ai vu venir, donc j'avais tous les signaux qui clignotaient, mais à la fin je me suis fait avoir. Quand je dis que je me suis fait avoir, c'est par...
Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas écouté vos signaux, vous qui vous connaissez si bien maintenant ?
Ben, pour être sincère, parce que je suis un passionné, et j'ai encore cru que j'avais rencontré la femme de ma vie.
Alors comment ça s'est passé ?
Attendez, je m'excuse quand je dis la femme de ma vie, je vais quand même être raisonnable. Une femme de vie, je vais dire.
La femme de votre vie en 2022, en tout cas.
Ouais.
Alors racontez-moi la rencontre.
Voilà, donc je vais le faire très vite. J'ai passé une annonce sur Internet, une annonce très écrite, justement complètement atypique, très écrite, relativement longue, où je parlais de ma conception de la vie, quelque part entre l'histoire de l'art et l'histoire des religions, je dirais, ou entre animalité et spiritualité, pour le dire autrement. Et donc j'ai une femme, une jeune femme, qui a 20 ans de moins que moi à peu près, même plus, 25 ans je crois, enfin qu'importe, et qui m'a dit j'adore votre écriture, vous êtes poétique, ta 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 ta. Et moi, quand on me fait des compliments, évidemment j'aime ça, mais je me méfie. C'est pas à vous, maîtresse en la matière, si je puis me permettre, la fameuse projection. On projette sur l'autre qui on est, finalement. Donc, voilà, elle admire mon style, on parle au téléphone, elle me demande ma photo, moi je temporise, je lui dis, attendez, on va attendre, on fait connaissance par téléphone et tout passe par la voix.
Enfin, ah, moi, vous n'avez pas mis la photo sur le site?
Non, volontairement.
Tiens donc.
Volontairement, volontairement.
Ouais. Et est-ce que vous avez triché sur l'âge?
J'ai triché de 3 ans. Autrement dit, c'est dérisoire.
C'est curieux. Parce que je suis... Oui. Pourquoi 3 ans? Pourquoi 3 ans?
J'ai mis un compte rond, si vous voulez. C'est aussi bête que ça. Parce que c'est le seuil psychologique, j'ai envie de dire.
D'accord.
Mais c'est bête, hein. Je veux dire, c'est bête.
Non,
c'est
je connais beaucoup de gens qui font ça.
C'est une coquetterie, quoi.
Oui.
Et voilà.
Donc, coup de téléphone.
Donc, coup de téléphone, même coup de téléphone qui deviendra un coup de foudre. 4 heures au téléphone. Ça s'est réitéré 3 soirs de suite, d'ailleurs, 4 heures pile. Pourquoi 4 heures? Parce qu'au bout de 2 heures, les réseaux mobiles coupent automatiquement les conversations. Donc Et au bout de... Ouais, j'ai remarqué ça, ouais. Vous voyez, je suis presque professionnel du
téléphone. Vous avouez que ça fait longtemps que je n'ai pas passé plus de 2 heures avec quelqu'un au téléphone, mais c'est vrai que je ne savais pas.
Et voilà, donc après, finalement, j'ai accepté de lui envoyer des photos de moi. Je ne lui ai plus. Et puis, elle m'en a envoyé d'elle. Et là, je veux dire, en premier réflexe, je ne pouvais être que comblé, rêveur et tout ce qu'on veut. Elle était magnifique.
Ah.
Elle avait un corps de rêve. Mais un peu trop, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je parle un peu trop, je parle de ses tenues. Pas vulgaire, les tenues, mais très sexy, on va dire. Et enfin, ça me faisait un peu peur. C'est une femme, une jeune femme qui est originaire d'un autre continent, on va dire ça comme ça, un peu chaud, si j'ose dire. Je parle des qualités de température, hein, quand je parle de chaud. Et comme elle vient d'un pays, entre guillemets, pauvre, et puis elle m'a parlé aussi de son passé. Apparemment, elle a eu un vécu difficile à cause justement de cet état, de ce pays. Ce fait qu'elle soit très apprêtée, très, très séductrice, justement, j'ai fait un peu de la prospection. C'est la fameuse écoute active, hein, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Je l'ai fait parler pour voir ce qu'il y avait derrière. Et justement, elle m'a concédé, je suis quelqu'un qui aime séduire les hommes.
Ah.
Un, j'aime séduire les hommes, et deux, les hommes matures. Ok.
Oui.
Et puis elle croit bon de rajouter assez rapidement, mais mon amoureux, je lui serai fidèle. Ok, ça devient rassurant. Bon voilà, pour aller vite, 4 soirs de discussion, le quatrième, je ne vais pas être explicite, ça serait presque indécent pour le coup, mais ça tombe dans l'érotisme. Mmh. Et le pire, c'est que c'est elle qui m'a entraîné sur ce terrain-là.
Et moi, oui, dans ma tête, ça va bien avec le schéma que vous me décrivez. Hein.
Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit non. En plus, je ne vais pas vous le cacher. J'ai fait pas mal d'années de radio dans une vie antérieure et j'ai même travaillé la nuit, vous voyez. Mmh. Et donc, je suis habitué. Et puis, là aussi, je ne vous le cache pas et j'en joue un petit peu. Je pose ma voix, je joue d'une octave et demie par moment, etc. Mais pour séduire, évidemment, mais pas manipulateur, enfin, j'espère pas. Et donc, elle m'entraîne sur ce chemin érotique et vas-y, qu'on y va. Et là, immédiatement, à un moment, je lui dis, écoute, parce que j'ai oublié de vous le préciser, moi je suis à Paris, et elle est à Toulouse, donc à l'autre bout de la France.
Mmh.
Et moi, je lui dis, je te propose quelque chose. Si tu le veux, je prends le train, très rapidement, et je viens te voir. Vous voyez? Justement pour ne pas tomber dans cette espèce de fantasmagorie, de délire téléphonique, avec des photos qui vont avec, bien sûr. Et donc, j'y suis allé.
Elle a dit oui.
Et là... Elle a dit oui.
D'accord. Donc, a priori, rien à cacher.
Non, il n'y a qu'un truc, mais là, c'est pour ma gouverne personnelle, parce qu'elle me disait qu'elle adorait mon écoute, que j'étais un gentleman, elle employait des mots assez, assez forts, que je n'aime pas trop d'ailleurs. Et à un moment, donc j'y suis allé finalement, et quand j'y suis allé, je ne l'ai pas senti. Elle était conforme aux photos, elle était très belle, elle était justement vêtue comme sur les photos, une belle robe court vêtue, on va dire, des talons de quasiment 10 cm. Elle fait toujours, c'est ce qu'elle m'a dit, 1m62. Moi, je suis 1m83. Bon, voilà. Mais vous voyez, dès le départ, tiens, sans le faire exprès, je suis en train de penser à quelque chose. Au téléphone, elle m'avait dit, je ne sors jamais avec des hommes de moins d'1m80. Moi, j'ai dit, pourquoi moi, j'ai aucun stéréotype, mais pourquoi? Parce que je mesure 1m62. Et avec mes talons, je n'ai pas envie d'être plus grande que le gars. Et là, si vous voulez, je me suis dit, cette femme est vraiment dans l'apparence.
Dans le paraître, oui.
D'une part. Et d'autre part, justement, dans la projection. Et vous voyez, à la limite, c'est presque quelque chose d'inversé. En général, ce sont les hommes, enfin typiquement, hein, parce que tous les hommes ne sont pas pareils, mais typiquement, l'homme, il chosifie la femme, vous voyez ? Alors que là, justement, je me suis senti un peu chosifié. Bon, voilà, ça, c'est une parenthèse. Donc, j'arrive sur place, en fin d'après-midi, 17h à peu près, canicule. Je suis parti de Paris, il faisait 24 degrés. Là-bas, il en faisait 36 ou 7, je ne sais plus combien. C'est avant que la canicule arrive à Paris, d'ailleurs. Mmh. Et donc, je la rencontre. Je m'approche, enfin je veux dire, elle était dans un bar, à une terrasse, on s'était donné rendez-vous, je connaissais le lieu, j'arrive à peu près quoi, 30 mètres, elle a levé la main pour se signaler, je l'ai reconnue, donc il n'y a pas eu de problème. Mais déjà la salutation, qu'est-ce que je fais? Je lui fais la bise, etc. Mais j'ai senti une espèce de mouvement de retrait, j'ai pas envie de dire de froideur, mais quelque chose comme ça, qui m'a gêné, qui m'a même bloqué en fait. Qui m'a vraiment bloqué. Et là, le pire, j'en rigole aujourd'hui, mais le pire, ce sont des détails. Mais j'ai envie de dire des détails très signifiants. Vous savez, c'est le réflexe. Je pose mon téléphone portable, parce que j'étais au téléphone avec elle, justement, pour qu'elle me, qu'elle me guide. Donc je pose le téléphone sur la table, qui était dans une espèce d'étui. Première chose qu'elle me dit, enfin première chose, après les salutations d'usage, elle me dit, ça, il faudra que tu le mettes à la poubelle. Mon téléphone, non, l'étui. Et moi, parce que je m'adapte, donc je fais un petit sourire. Mais justement, c'est vrai, mon étui, il est un peu usé par la vie, si j'ose dire. Il est banal, il est noir, donc neutre, mais il est un peu élimé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, rien de choquant, moi. Pour moi, je ne m'étais d'ailleurs jamais posé la question. Pour moi, l'étui, il est fonctionnel. Il protège le téléphone.
Mais qu'est-ce que c'est hallucinant comme entrée en matière, ça, quand on ne connaît pas quelqu'un.
Ouais.
Ouais, bon. Et alors, donc, vous avez des choses à vous dire à ce moment-là ou ça s'arrête là?
Eh ben, à partir de là, moi, ce qui me gênait, c'était le regard un peu fuyant. D'ailleurs, je lui ai dit, d'ailleurs, je le regrette. Vous voyez, je vais être sincère, je pratique mon auto-analyse, si j'ose dire, mon introspection. Parce que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la vérité, je suis un suradapté, moi. Et parce qu'à la base, je suis un très grand timide, moi, à la base. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de la radio, vous voyez, c'est une thérapie. Mmh. J'ai fait de la radio, moi, à l'époque, des radios pirates, hein, donc c'est une vie antérieure, tout ça. Et j'ai senti, donc, son regard, il partait à droite, à gauche, et je lui ai dit, mais pourquoi tu regardes à droite et à gauche? Il y a un problème, il y a un beau jeune homme qui vient de passer, qui est plus beau que moi. Et puis j'enchaîne dans l'humour comme ça, et j'ai dit, et alors comment tu me trouves, tiens? Ou un truc comme ça, hein, c'est peut-être pas le mot exact. Et elle me dit, t'as les traits plus fins que ce que je croyais. Parce que moi, sur la photo, c'est des photos selfies en plus, hein, qui ne sont pas trafiquées. J'avais fait deux ou trois photos comme ça, avec des visages différents. Je ne posais pas un visage souris. En plus, ça ne veut rien dire. Et elle me dit, ouais, en général, vous voyez, et modestement, les femmes me font un compliment d'ailleurs d'avoir une apparence dans mon visage, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, d'être un homme doux. C'est-à-dire un peu l'opposé de l'homme hyper viril, un peu macho. Moi, je suis l'anti-macho, vous voyez. C'est pas une force ou une faiblesse, c'est comme ça, je suis l'anti-macho. En plus, j'ai une très haute idée de la féminité, voilà. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait attiré en elle, cette féminité, a priori. Mais un peu trop poseuse. Elle a travaillé dans la mode.
Oui, pour l'instant, je la trouve plutôt aguicheuse que séduisante. Hein.
Bravo, je vous remercie parce que c'est le mot. C'est le mot, aguicheuse. Et puis bon, voilà, la discussion se fait. Là, comme le temps passe vite, j'essaie d'être un peu plus short, un peu plus court, pardon. Au bout d'un moment, je prends l'initiative de se lever. Je lui dis, on va se promener, on va marcher dans la rue. Moi, je connais bien la ville de Toulouse, je n'avais pas mis les pieds depuis une éternité. Donc, ça me faisait plaisir de marcher dans la rue. Et là, elle est très... un peu des marches à louper, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Et puis, elle me fait des remarques. Elle me dit, regarde les jeunes. Et c'était des jeunes un peu... je ne veux pas stéréotyper, donc je ne veux pas dire le style, mais enfin, bon, des jeunes, on va dire. Ils étaient en bande comme ça, 3 ou 4 ou 5, j'en sais rien. Et moi je ne les avais même pas vus. Enfin, je les avais vus, ils avaient traversé mon champ visuel, mais je n'avais pas fait d'analyse. Et elle me dit, t'as vu, ils parlent de nous. Bon, oui, peut-être, c'est possible. Et puis, elle me rajoute un truc dans le genre... mais j'ai l'impression qu'ils ont fait une allusion que j'étais avec le mec et que je viens de séduire, que c'est mon pigeon, un truc comme ça. Vous voyez, comme les prostituées, c'est un terme de prostituée, ça. Parce qu'on en avait parlé,
c'est
attention.
C'est un peu l'image que ça donne, comme vous le racontez, en tout cas. Hein.
Ben oui.
Ben oui.
Ben oui.
Mais vous espériez quoi en allant vous promener avec elle? Vous attendiez quoi du reste de la journée, finalement?
Sabine, je vais être très sincère. Clairement, je vais être très sincère avec vous et je vais être très sincère. Mon objectif, hein, je dis bien mon objectif, j'emploie le mot à dessein, c'était pas de coucher avec elle. En revanche, c'était de passer la nuit avec elle, tendrement et se connaître. D'abord parce que...
Mais attendez, vous n'auriez pas choisi une femme comme ça si c'était le cas?
Hein? Pardon?
Vous n'auriez pas choisi une femme comme ça si c'était le cas?
C'est-à-dire?
Quand on n'a pas envie de coucher avec une femme, mais juste de construire quelque chose de plus tendre, de plus profond, on ne choisit pas une aguicheuse. C'est un truc ouais, à votre histoire.
Vous avez raison. Le problème, parce que là, vous touchez, j'allais dire, mon cœur sensible, ou ma contradiction. Tout à l'heure, en plus, je l'ai dit de manière intellectuelle, mon annonce et toute ma vie, c'est que j'ai une passion intellectuelle et artistique, attention, parce que c'est mon travail de toute ma vie, finalement. Cette espèce de dialectique humaine entre la spiritualité la plus haute et l'animalité la plus absolue, la plus crue, pardon. En d'autres termes, entre la pulsion, on va dire, sexuelle en l'occurrence, et la sublimité, la sublimation, la beauté, etc. Moi, je suis un apôtre de la beauté, j'en ai beaucoup parlé, j'écris là-dessus. Et donc, évidemment que sa plastique m'a infiniment attiré, attisé, si j'ose dire, hein, évidemment. Mais justement, comme disait le philosophe, être un homme, ça se retient. C'est ça qui fait la définition d'être un homme pour moi. Et donc, mon but n'était vraiment pas de consommer quoi que ce soit. Parce que justement, c'est pas ça l'amour.
Oui, mais là, il n'est pas question d'amour dans cette histoire-là. Pour l'instant, où est-ce que vous voyez de l'amour là-dedans?
Bah, au début, au téléphone.
Mais c'est pas de l'amour au téléphone, ça, Jess. On n'est pas amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui on parle au téléphone. Mais ça n'existe que dans les romans, ça.
Mais vous avez raison. Mon problème, vous voyez, je vais vous faire un retour sur image. Quand je vous avais appelé il y a donc un an et demi, on avait parlé de ça. Et vous me disiez justement que les gens comme nous, comme moi, comme d'autres, et même cette femme finalement, on est amoureux de l'amour. Mmh. Et on a un côté cœur d'artichaut. Sauf que là, en plus, je l'ai invité au resto le soir. Donc déjà, je me coltine le train. Et en plus, je l'invite au resto. Et moi, pardonnez-moi de dire ça. Je l'avoue, je suis un peu calculateur. Je teste les gens sans le faire exprès, mais quand même. Si elle avait été un brin courtoise, elle m'aurait proposé de participer aux frais du repas. J'en ai rien à faire, moi. Ça m'a coûté une 60aine d'euros, à tout casser. Avec ce que j'ai payé pour le train, à la limite, je m'en fiche. Mais je veux dire, il n'y a même pas eu de geste d'intention. Donc je n'ai pas compris. Et moi, c'est là où j'en viens. à la fin du, enfin à la fin, le repas n'était même pas terminé. Je lui dis, j'ai une possibilité de prendre un train maintenant. Parce qu'elle avait soi-disant des partiels à faire, puisqu'elle avait repris des études, c'est ce qu'elle m'avait dit dans une école de commerce, dans le cadre de la formation professionnelle. Si ça se trouve, c'est du flan, hein, ça se trouve, c'est du bipo, ce qu'elle m'a raconté. Je ne suis pas là pour vérifier, je m'en fiche. Mais je lui ai donc mis sur la table, si tu veux, je repars. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise, ne repars pas. Puis elle réfléchit, 5 minutes, elle me dit, ouais, je crois que c'est mieux que tu repartes.
Ouf.
Alors imaginez le bougre, oui. Il prend le train à la bourre, et en plus, le train, je vous jure que c'est vrai, je croyais que ça n'existait plus dans ce pays, c'était un train de nuit, bon ça je le savais, mais un train couchette. C'est-à-dire que je me suis fadé, si je vous le permettre, j'ai supporté un train couchette, nuit blanche. Chaleur, promiscuité, frustration, énervement, enfin tout ce que vous voulez.
Ben oui, mais bon, vous l'aviez un peu cherché quand même, Jess.
Oui, je suis un grand naïf.
Non, mais vous êtes un grand amoureux des histoires que vous vous racontez. Et là vous avez pris la réalité en pleine face, si je puis dire. Qu'est-ce que vous êtes dit pendant ce dîner? Vous avez réussi à avoir des sujets de conversation tous les deux?
Oh là 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 là, m'en parlez pas. En fait, on était quasiment seuls à la terrasse de ce restaurant. Le serveur était hyper sympathique et souriant. Il faisait très bien son travail, pour le coup. Et quand il est venu nous servir l'apéritif, voilà-t-il pas qu'elle trinque avec moi et qu'elle dit devant lui « à l'amour ». Et moi, pendant une heure, je me suis dit « c'est bon ». J'allais dire « c'est dans le sac », vous voyez, pour être un peu vulgaire.
Ça collait au scénario, du coup, à votre scénario.
Ouais. En fait, c'était pas moi qui jouais la comédie, c'était elle et je me suis fait avoir. Mais le pire, comme le temps passe, je fais vite, mais le pire, c'est que le lendemain, pendant une semaine, j'étais cassé. C'est pour ça que je vous appelais ce soir. Mais j'étais cassé, je ne sais pas comment.
Mais attendez, quand elle vous a dit « bah oui, prends-le le train », qu'est-ce que vous lui avez répondu? Comment vous vous êtes quitté?
Je ne me souviens plus très exactement ce que j'ai dit. Ça, c'était pathétique parce que le train, pour le prendre, il a fallu prendre une station de métro. C'est un métro automatique, comme les lignes automatiques de Paris d'ailleurs, qui arrive à la gare. Le train, j'ai failli le louper, mais quand je suis arrivé, il avait 19 minutes de retard. Donc on est parti en courant, vous les imaginez, avec ses talons.
Elle vous a accompagné à la gare quand même?
Ouais, c'est elle qui m'a même pris le ticket de métro parce que je n'avais pas mes repères pour prendre le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'avais pas mes repères, donc c'est elle qui me l'a pris. Vous voyez?
D'accord.
Et quand je l'ai quitté, elle me dit, mais qu'est-ce que... Je ne me souviens plus les mots exacts, mais en substance, c'était, mais qu'est-ce que c'est que cette tête que tu me fais? Et moi, j'ai dit, je te l'avoue, je suis hyper malheureux. Je pars parce que, voilà, c'est moi-même qui te l'ai proposé, c'est une forme de respect, mais... J'ai mal, quoi. J'aurais aimé rester avec toi. Et voilà.
Et depuis?
Et puis après, attendez, le pire, c'est qu'après, je lui ai envoyé des textos en lui disant que le train, c'était l'enfer. Elle me répond en substance, tu te plains d'un truc comme ça, si tu vivais dans un pays où on crève de faim, tu ne ferais pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je l'ai bouclé, et le lendemain, le matin, je lui ai envoyé un vocal sur son téléphone. Je dis bien un vocal, pas un message, un vocal. Justement, pour ne pas passer pour pas faire sonner le téléphone, par respect et par distanciation. Où je lui dis des mots tendres. Pas des mots d'amour, des mots tendres. Donc c'est au-delà des mots d'amour. Et puis elle ne me répond pas. Et voyant qu'elle ne me répond pas, à 17h, je la rappelle. Et elle me prend un air d'une autorité cassante. Et là, j'ai pété les plombs. Et je suis comme le scorpion, moi, c'est mon signe astrologique, comment ça s'appelle? Moi, je m'en fous de l'astrologie, mais j'aime la symbolique. Pas le premier signe, le second, vous voyez ce que je veux dire? Mon ascendant, merci infiniment, je ne trouve plus le mot, vous voyez. Je suis un peu perdu tout d'un coup, parce que je suis speed par l'horaire, et je veux absolument aller au bout de mon histoire pour avoir votre retour. J'ai senti que c'était la rupture. Et j'ai senti que cette relation était, allez, on va employer un mot fou, toxique, pathologique, que j'ai pété les plombs. Et je m'excuse, Sabine, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça à l'antenne, mais à la limite, tant pis, c'est qu'une citation. Je lui ai dit, salope, j'ai raccroché au tarin, j'ai raccroché au nez. Et derrière, je lui ai envoyé plusieurs textos en lui disant qu'en fait, elle avait que les attitudes d'une prostituée, y compris dans ses vêtements, et que voilà, j'avais perdu mon temps avec elle.
Mais Jess, ça, vous l'avez vu à la première seconde sur la photo déjà, donc pourquoi vous avez l'air surpris? Effectivement, Sabine. Effectivement, elle se comporte depuis le début, enfin très clairement comme quelqu'un qui veut de l'argent, quoi. Voilà, on va dire les choses clairement.
Mais oui, Sabine. Mon problème, Sabine, c'est que.
De quelle relation parlez-vous quand vous dites cette il y a zéro relation là-dedans. C'est pas une relation, ça. Ça s'appelle pas une relation.
Parce que j'ai rêvé.
Ben voilà. Et vous le savez, en plus.
Parce que ma problématique, c'est que moi, j'attire les femmes vampires. Attention, je parle de vampirisme psychique, on est bien d'accord. Parce que ça m'arrive souvent. Moi, j'ai un style d'écriture. Modestement, hein, je ne me la raconte pas, mais quand je mets des annonces, on voit que le type, il maîtrise son truc. Ça devrait être normal, d'ailleurs, dans une société d'aujourd'hui, où malheureusement, les gens qui savent écrire sont vus comme des extraterrestres. Et j'ai eu souvent, par Internet comme ça, mais je n'ai jamais donné suite, des femmes qui, sans me connaître, me demandaient de leur écrire des trucs. Je veux dire, pour leur travail. Mais moi, je me disais, mais attends qu'on se connaisse, je veux bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je le sais. Je me méfie beaucoup de ces êtres. Je ne dis même pas ces femmes, je veux dire, ça pourrait être des hommes. Hein. Ce n'est pas typiquement féminin, enfin, j'ose le croire, qui sont des gens intéressés et qui...
Jess, vous dites, je m'en méfie beaucoup. En même temps, c'est gros comme le nez au milieu du visage. Et vous y allez quand même.
Parce que, Sabine...
Vous aviez encore envie d'y croire.
Vous voyez,
à votre scénario.
Ben oui, je ne sais pas combien de personnes nous écoutent ce soir. Je veux dire, je suis... Vous voyez, j'en perds mes mots. Mon élocution est en train de tomber. Sa beauté plastique, voilà, comme un épouvantail. Et j'étais un crétin. Vous voyez, je suis très dur avec moi, mais j'étais un crétin. C'est sa beauté qui m'a ébloui. Parce que je travaille, vous voyez, je travaille sur ce concept de beauté. J'écris un texte, je ne sais pas si je vais le porter sur une scène, parce que c'est hyper compliqué, mais ce n'est pas le sujet de mon intervention, et je ne suis pas là pour ça. Mais j'écris un texte qui parle de la beauté plastique, de la beauté, justement la beauté plastique, jusqu'à la beauté de l'âme, finalement. C'est toute ma vie, tout ça. Donc, fatalement, sans être une espèce de fétichiste à la petite ramasse, j'ai une... Voilà, une femme qui est belle, fatalement, va me troubler. Oui, et en plus, elle avait une voix qui n'était pas désagréable au début.
Je crois que vous savez très bien ce qui s'est passé. On va en rester là parce qu'il est presque 1h du matin.
Ben oui, c'est dommage.
Ça passe très vite, mais vous savez très bien qu'au moins ça vous apprenne à aller vers ce que vous voulez vraiment et arrêter de vous faire des films. Vous le savez, c'est pas la peine que je vous le dise, vous le savez très bien tout ça. Vous aimeriez que la réalité colle à vos scénarios et ça n'est pas le cas.
Oui, mais je suis malheureux comme la pluie, moi, au quotidien, dans ma solitude, si je puis dire.
Alors, quand vous êtes trop seul, rappelez-moi, mais là, il faut qu'on se quitte.
Oui, je comprends bien. Je peux vous rappeler dans combien de temps?
À la rentrée.
D'accord, je prends note, hein, je suis comme ça, moi.
Je vous embrasse, Jess, il faut vraiment que je vous laisse. L'émission se termine, merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain soir à 23h, horaires normaux, demain soir. Pour de nouveaux échanges, de nouvelles confidences, et je vous quitte d'ici là avec la phrase du jour. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, n'est-ce pas Jess? C'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Je vous embrasse, passez une bonne nuit et à demain. 1h du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.